Appel sur l'actualité 33 1 53 92 64 40. Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver. L'antenne vous appartient et dans 20 minutes, nous lancerons notre débat du jour. Nous parlerons de cet espoir que suscite Barack Obama. C'est vrai que sa victoire en novembre dernier a provoqué une euphorie mondiale. Le changement promis par le futur président des États-Unis suscite un immense espoir au-delà des frontières américaines. Mais vous le savez, les défis à relever sont nombreux. La crise économique, l'Irak, l'Afghanistan, le nucléaire iranien ou encore le dossier israélo-palestinien. En tout cas, le futur président des États-Unis est conscient de l'énorme tâche qui l'attend. Cela prendra probablement des années, a-t-il dit encore dimanche dernier à Washington. Alors qu'attendez-vous concrètement de Barack Obama? Comprenez-vous cet engouement à travers le monde? Vos commentaires nous intéressent. Vous nous rejoignez, un seul numéro de téléphone, le 01 53 92 64 40. Si vous nous écoutez à l'étranger, vous composez d'abord le 33 1 suivi du 53 92 64 40. Mais d'abord, vos questions à la rédaction. Nous commençons avec vos questions. Pour mieux comprendre l'actualité, c'est votre rendez-vous quotidien avec les journalistes d'RFI. S'il vous manque des clés pour décrypter certains sujets que nous traitons à l'antenne, vous nous appelez ou vous nous envoyez un courrier électronique. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler notre adresse, appel@actu.rfi.fr. Et vous avez été nombreux tout au long de la semaine dernière à nous poser des questions et à commenter également cette actualité qui ne vous a pas laissé indifférent. L'affaire Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, qui est entre les mains, vous le savez, de la justice internationale. Esnar, bonjour.
Oui, bonjour Juan, et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Alors, vous nous appelez du Congo, vous êtes à Pointe-Noire très exactement. Quelles sont vos questions, Esnar?
Ma question est celle-ci, est de savoir pourquoi un mandat d'arrêt n'est pas lancé contre l'ancien président de la Centrafrique en la personne de Ange-Félix Patassé, alors que c'est ce dernier qui a fait appel à Jean-Pierre Bemba et à ses troupes.
Alors c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises et on le comprend, elle fait débat. L'ancien président centrafricain, pour l'instant, ne fait pas l'objet de poursuites de la Cour pénale internationale, mais c'est vrai que son nom a plusieurs fois été cité la semaine dernière à La Haye devant la CPI. Ghislaine Dupont, bonjour. Merci d'être avec nous, Ghislaine. Vous avez pu assister la semaine dernière aux audiences dites de confirmation des charges, c'est-à-dire que durant 4 jours, les juges ont examiné les accusations qui pèsent contre l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. Pour planter le décor, faut quand même rappeler qu'à l'époque des faits, il y a donc un peu plus de 6 ans, Ange-Félix Patassé était le président de la Centrafrique et c'est lui qui appelle le chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba pour l'aider à repousser une rébellion qui tente de le chasser du pouvoir. C'est un point extrêmement important et on en parlera dans un instant avec vous, Ghislaine Dupont. D'abord, que reproche-t-on exactement à Jean-Pierre Bemba?
Alors, en fait, il y a 3 chefs de crimes contre l'humanité, viol, torture, meurtre, et ensuite 5 chefs de crimes de guerre, alors qui recoupent les éléments des crimes contre l'humanité. Donc ces 5 chefs sont viol, atteinte à la dignité de la personne, notamment des traitements humiliants et dégradants, pillage d'une ville ou d'une localité et meurtre.
Alors, je le disais tout à l'heure, c'est l'ancien président centrafricain Ange-Félix Patassé qui fait donc appel aux hommes de Jean-Pierre Bemba. La défense, les avocats de Jean-Pierre Bemba estiment qu'à partir du moment où les troupes de Bemba étaient sur le territoire centrafricain, finalement, ils étaient responsables du gouvernement centrafricain et non de Jean-Pierre Bemba.
Oui, effectivement, toute la défense a bien insisté sur cet aspect. Bemba n'est que celui qui a prêté ses troupes et donc les avocats de Jean-Pierre Bemba disent que lui-même n'était pas dans la chaîne de commandement et que ses troupes étaient sous le commandement d'un État étranger et souverain dirigé par le président Patassé. Alors la question des SNAR, elle est très importante et elle révèle en fait un peu ce qui est apparu comme une faille dans le dossier. Parce que la chambre préliminaire, c'est-à-dire les juges de la Cour pénale, ont dès l'ouverture de l'audience procédé donc à la lecture des charges qui pèsent contre le suspect Jean-Pierre Bemba. Et c'est à cette occasion qu'Ange-Félix Patassé a été cité nommément et désigné comme conjointement responsable. Alors, c'est assez étrange parce que le procureur, ou plus exactement son adjointe Béatrice Lefrappère, oui, explique qu'il n'y a pas assez d'éléments pour prouver la responsabilité pénale individuelle du président centrafricain.
Et d'ailleurs, Béatrice Lefrappère, quelques minutes avant l'ouverture de ces audiences, disait sur l'antenne d'RFI que faire venir des troupes de Jean-Pierre Bemba en Centrafrique, c'était une décision, je la cite, une décision politique.
Voilà, pour l'instant, le bureau du procureur parle de responsabilité d'ordre politique. Mais pourtant, ce qui est étrange, c'est que le bureau du procureur, c'est-à-dire l'accusation, a, dès le lendemain de cette première journée d'audience, pendant les trois derniers jours, cité... Ce bureau, il a cité lui-même à de nombreuses reprises le nom de Patassé. L'accusation a expliqué qu'il y avait un plan commun entre Jean-Pierre Bemba et Ange-Félix Patassé avec une intention commune, intention criminelle, de terroriser la population centrafricaine pour l'empêcher donc à l'époque de sympathiser avec les rebelles du général Bozizé qui étaient en train de tenter de renverser Patassé, raison pour laquelle Ange-Félix Patassé avait appelé Jean-Pierre Bemba à la rescousse. Alors évidemment, ce qu'on peut se demander aujourd'hui, c'est si un procès pourrait se tenir sans la présence de Patassé. C'est une hypothèse, en tout cas. Le fait que les juges de la chambre préliminaire, qui ont deux mois pour décider si les éléments présentés par les deux parties pendant ces quatre jours permettent ou non de poursuivre Jean-Pierre Bemba, eh bien, pourraient décider de réclamer au procureur d'apporter des éléments nouveaux sur Patassé. C'est en tout cas une possibilité.
Allez, en tout cas, ça ne manquera pas de susciter le débat. Si vous souhaitez d'ailleurs vous exprimer sur ce dossier, on peut en parler le vendredi, puisque vous le savez, le vendredi c'est la libre antenne, et vous réagissez à l'actualité de votre choix. Esnar à Pointe-Noire, a-t-on répondu à votre question ?
Oui, merci Juan, et bonne journée à vous.
Merci à vous, bonne journée à Pointe-Noire. Je vais me faire le porte-parole de Victor, qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le réseau téléphonique est trop mauvais pour le passer à l'antenne. Victor nous demande, s'il n'y a pas de procès, quel sera le sort réservé à Jean-Pierre Bemba ? Peut-il être libéré après les deux mois d'audience, ou y aura-t-il d'autres procédures ? Alors, vous le disiez à l'instant, Ghislaine, les trois juges de la CPI disposent maintenant de 60 jours pour décider s'ils confirment les chefs d'accusation contre Jean-Pierre Bemba. Que va-t-il se passer à partir de ce moment-là ?
Précisons peut-être pour Victor que la chambre préliminaire qui était chargée de cette audience de confirmation des charges, les trois juges qui constituent cette chambre, ne sont pas là pour dire au bout de deux mois si Jean-Pierre Bemba est innocent ou coupable. Ils sont juste là pour dire nous disposons d'assez d'éléments pour maintenant renvoyer Jean-Pierre Bemba en procès. Alors, si cette chambre estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments, elle peut effectivement le dire, mais si vous voulez, dans cette affaire de justice internationale, on voit mal la procédure s'arrêter tout de suite. Le procureur, lui, il a le droit de formuler une nouvelle demande de confirmation des charges, si elles étaient rejetées. Et à ce moment-là, il dira qu'il va fournir des éléments de preuve supplémentaires. On relâche pas, on est dans une procédure où il est question de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Oui. Alors en fait, pour expliquer à Victor et à nos auditeurs, il y a quatre types de décisions qui sont possibles. La première, c'est que la chambre préliminaire peut donc confirmer les charges s'ils estiment qu'il y a des preuves suffisantes. Dans ce cas, donc, Jean-Pierre Bemba est bien renvoyé en jugement. La deuxième option, c'est que la chambre peut refuser de confirmer ses charges parce qu'il juge les preuves insuffisantes. Alors là, est-ce qu'on pourrait le relâcher ? Est-ce qu'on... oui, c'est tout est toujours possible, sauf qu'il y a des procédures qui peuvent bloquer cela. Et puis surtout, même si la chambre ne confirmait pas les charges dans un premier temps, il est évident que le procureur dira « je vais apporter de nouveaux éléments » et que pendant ce temps-là, probablement, même s'il y a une demande de mise en liberté provisoire, est-ce que la chambre jugera qu'il n'y a pas un risque de fuite, par exemple, du suspect ? Donc, toutes les options sont possibles. Enfin, il y a aussi un troisième cas de figure. Les trois juges de la Chambre peuvent ajourner l'audience et demander donc au procureur, ça c'est les juges eux-mêmes, qui pourraient demander d'apporter des éléments supplémentaires ou même réclamer qu'il ouvre de nouvelles enquêtes. Et enfin, la quatrième possibilité, c'est que la Chambre peut ajourner l'audience et demander au procureur de modifier les charges parce que les éléments de preuve semblent établir que c'est un autre crime qui a été commis et donc que cela ne correspond plus aux charges qui sont reprochées au suspect. Ouais. Le procureur peut lui aussi d'ailleurs, il a le droit de modifier les charges éventuellement avant l'ouverture du procès.
Donc on verra ça dans 60 jours. Ghislaine, merci beaucoup de toutes ces précisions et on aura l'occasion de revenir évidemment sur cette affaire qui suscite beaucoup de réactions au standard de l'émission 01 53 92 64 40. Nous repassons au standard, nous allons parler de la situation au Proche-Orient. Barra nous appelle de Dakar. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à tout le monde.
Bienvenue, nous vous écoutons, Barra.
Alors, j'ai deux questions à poser. La première est la suivante. Est-ce que l'Iran est une menace pour les pays arabes ? Pourquoi ? deuxième question, est-ce que c'est l'Israël qui assure la sécurité de certains pays arabes? Quels sont ces pays?
Oui.
Et comment est-ce possible?
Alors, est-ce que l'Iran est une menace pour les pays arabes? Nicolas Falaise nous rejoint, bonjour.
Bonjour.
En tout cas, il y a des frictions, une chose est sûre. On a entendu ces derniers jours à plusieurs reprises le président iranien reprocher aux capitales arabes leur silence face à l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Le président Ahmadinejad, il me semble, a même cité nommément l'Arabie saoudite. Comment expliquer ces clivages déjà?
Alors, effectivement, l'émergence ou le retour ou la montée en puissance de l'Iran dans la région crée du trouble et de la division dans le monde arabe. Que se passe-t-il en 2003 lorsque les Américains font tomber le régime de Saddam Hussein en envahissant l'Irak? Ils débarrassent l'Iran d'un voisin encombrant, puisqu'il y a eu une guerre Iran-Irak très meurtrière dans les années 80. Les États-Unis avaient deux ennemis dans la région, l'Irak et l'Iran, mais ils se neutralisaient, ils se paralysés mutuellement. En faisant tomber Saddam Hussein en Irak, les États-Unis libèrent de l'espace politique régional pour l'Iran qui aujourd'hui affirme ses ambitions mondiales et régionales de grande puissance 30 ans après la révolution islamique. Alors, le monde arabe est divisé, il a toujours été sur différentes lignes de fracture, de clivage, mais aujourd'hui, l'Iran est facteur de cette division du monde arabe. Alors, on a tendance de dire, alors, il faut mettre des guillemets autour des termes, que dans le monde arabe, la vingtaine de pays de la Ligue arabe, il y a un camp modéré ou pro-occidental, avec guillemets.
Et là, on cite généralement l'Égypte, l'Arabie saoudite,
la Jordanie, et un camp de radicaux qui caractérise par son refus d'Israël, son refus de la politique américaine dans la région, et maintenant, désormais, son alliance avec l'Iran. Alors, le principal agent de cette alliance parmi les pays arabes avec l'Iran, c'est la Syrie, mais il n'y a pas que les États, il y a aussi les organisations non étatiques, comme le Hezbollah au Liban, le Hamas en Palestine et certaines milices en Irak. Alors, dans le premier groupe, celui des modérés, des pro-occidentaux, pour faire vite, certains ont des vraies relations diplomatiques avec Israël. C'est le cas de l'Égypte, de la Jordanie par exemple. D'autres non, comme l'Arabie Saoudite. Mais on le sent, on sent bien que l'Arabie Saoudite, le royaume saoudien, est aujourd'hui dans ce camp proche des États-Unis, pour des raisons économiques et politiques, proche des Occidentaux, et même si ça ne s'est pas encore traduit par des relations directes avec l'État hébreu. Que se passe-t-il ces dernières semaines, lorsqu'Israël lance son offensive sur la bande de Gaza avec un bilan humain très très lourd, notamment parmi les civils? Eh bien, on peut dire à la fois que ça intensifie cette fracture et que ça fait aussi bouger les lignes. Par exemple, le Qatar, qui est un royaume du Golfe, qui accueillait un bureau de relations économiques avec Israël, donc qui était plutôt en pointe en direction de l'État hébreu, eh bien, le Qatar ou la Mauritanie, par exemple, gèlent leurs relations avec Israël. Donc on voit bien que une partie du monde arabe se radicalise, toujours selon cette ligne de fracture.
Le Qatar qui appelle d'ailleurs à plusieurs reprises à la tenue d'un sommet extraordinaire de la Ligue arabe, mais vu justement les nombreux clivages, le Qatar ne parvient pas rapidement à obtenir ce sommet, mais il y a eu la réunion d'hier à Koweït notamment,
de vendredi. Si bien que le Qatar a organisé vendredi une réunion à laquelle n'assistait pas l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le président palestinien Mahmoud Abbas, mais à laquelle participait comme observateur le président iranien Mahmoud Ahmadinejad et à laquelle était invité le Hamas. Cette fois-ci, à Koweït, la famille arabe est réunie, on parle de réconciliation, mais la fracture demeure, en témoignent quelques phrases. Le président égyptien Hosni Moubarak, qui déplore que certains pays ont exploité la tragédie de Gaza pour aider des forces étrangères qui aspirent à imposer leur hégémonie et étendre leur influence. Suivez mon regard, il s'agit de l'Iran.
Merci Nicolas Falaise d'être venu répondre à Bara qui nous appelait de Dakar. Faites comme Bara, appelez-nous si vous avez des questions pour mieux comprendre l'actualité. 01 53 92 64 40, notre adresse électronique appel au pluriel .actu@rfi.fr. Samba, bonjour.
Bonjour Juan.
Et bienvenue sur l'antenne d'RFI. Vous avez une question concernant César Battisti.
Tout à fait. J'ai appris que l'Italie n'est pas d'accord avec le Brésil qui venait d'offrir l'asile politique à Battisti. Je voudrais savoir quel est le désaccord qui existe entre ces deux pays. entre l'Italie et le Brésil.
Alors, désaccord, oui, pardon, vous avez une autre question?
Oui. Rappelez-moi un peu l'histoire de Bastis.
Ah, l'histoire, bon, on va peut-être le faire en deux petites minutes, rapidement, parce que j'aurai à la pendule. Maria Emilia Lencar nous rejoint, bonjour.
Bonjour, Juan.
Alors, vous êtes journaliste à la rédaction brésilienne de Radio France Internationale. Alors, c'est vrai que l'Italie est indignée hein, par la décision du Brésil d'accorder l'asile politique à Cesare Battisti. On va rappeler en deux mots que Battisti est un ancien militant de l'extrême-gauche italienne. Au début des années 90, il est condamné par contumace à la perpétuité pour quatre meurtres. Il se réfugie à ce moment-là au Brésil, au Mexique, ensuite en France, où il va rester jusqu'en 2004, où les autorités françaises vont décider de l'extrader en Italie. Donc, et c'est à ce moment-là hein, que Battisti s'enfuit du territoire français, et on le retrouve donc 3 ans plus tard au Brésil. Comment le Brésil justifie-t-il justement cette décision de ne pas vouloir extrader Cesare Battisti vers l'Italie ?
Le Brésil donne le statut de réfugié politique, hein, disant que c'est un pays qui reçoit, un pays démocratique, qui reçoit les gens de tout horizon et de toute idée politique.
Ça fait partie de la tradition brésilienne, a dit récemment.
Oui et non, parce que 60% des cas de ce genre sont refusés par un comité national qui juge ce genre de cas. Donc il y a une grande polémique au Brésil aussi. On a interviewé récemment un ex-juge du suprême tribunal qui était aussi un juge de la cour de la Haye et qui était complètement contre. Donc, mais on ne peut pas dire, comme l'auditeur aussi a l'air de se demander, qu'est-ce qui va se passer au niveau des relations diplomatiques entre le Brésil et l'Italie. On n'est pas là. Il y a tout simplement une lettre du président italien, Napolitano, qui a été envoyée au gouvernement brésilien, ça a un langage diplomatique, c'est pas du tout une rupture.
Oui. Le président brésilien à Rome a également été convoqué.
Il y a une lettre, tout simplement, qui a été envoyée. Le président Lula n'a pas encore répondu à la lettre, il n'a pas encore dit les contenus de cette lettre. Il a l'air de vouloir entériner la décision de son ministre de la Justice, mais la procédure continue parce que la Haute Cour de Justice brésilienne doit en fait décider si c'est cette décision de concession de statut de réfugié politique stoppe la procédure d'extradition ou la demande d'extradition. Donc tout ça est un peu à vérifier. Il y a quelque chose que la presse brésilienne a véhiculé, la presse française aussi, peut-être que vous savez, c'est qu'il y a eu quand même une demande du président Sarkozy, ça c'est des rumeurs, comme quoi cette demande de concession de statut de réfugié politique viendrait du président Sarkozy et de son épouse Carla. Ils étaient au Brésil il n'y a pas longtemps, parce que comme vous savez, ils ont demandé beaucoup pour Petrella, notre cas c'est
effectivement,
similaire.
Qui n'a pas été finalement renvoyé sur le territoire italien pour des raisons de santé.
Hein. Exactement, mais c'est ce qu'ils disent, il y a les rumeurs, même la Stampe, un chroniqueur de la Stampe a dit ça aussi. Donc voilà, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer, mais apparemment le gouvernement brésilien a l'air de vouloir entériner la décision.
Oui. Pas de remise en cause hein, dans les relations diplomatiques, évidemment, mais il y a quand même une voix qui s'est élevée au Brésil pour critiquer l'asile politique accordé à Cesare Battisti, c'est tout de même celle du président du Sénat, qui trouve que cette décision a été précipitée, et il met en garde le gouvernement sur de possibles tensions avec l'Italie. On verra ça, évidemment, dans les prochaines semaines, mais en tout cas, Lula semble bien déterminé à ne pas revenir sur cette décision, si j'ai bien compris.
Voilà, mais on va attendre encore d'autres chapitres de cette histoire.
Bien, merci beaucoup, Maria Emilia Lencar, d'être venue répondre à Samba. Bonne journée à vous, Samba. Merci de nous écouter à Dakar, au Sénégal. Vous avez manqué le début de l'émission, vous souhaitez la réécouter, rendez-vous dans quelques secondes sur le site internet de RFI. Le site a d'ailleurs connu ces derniers jours une légère modification. Donc pour nous retrouver, vous cliquez sur radio, puis sur émission, et vous arrivez donc sur la page d'appel sur l'actualité. D'autres questions à la rédaction demain, 8h10 temps universel, 10h10 à Paris, 01 53 92 64 40. Restez avec nous dans un instant, une synthèse de l'actualité, et puis dans 3 minutes, vos réactions sur l'investiture aujourd'hui de Barack Obama.